Radio de la Paix. Il est 18h. Le journal de 18h. Linda Christelle Ballier.
Bonsoir à tous et merci de rester fidèles à Radio de la Paix. Pour cette édition en titre, tenir les sénatoriales à 2 semaines des élections locales est contraire au texte du code électoral ivoirien, en raison du timing jugé trop juste pour des éventuelles réclamations et règlements de contentieux par le politologue et juriste Geoffroy Julien Kouaou. Nous parlerons dans cette édition de sécurité routière, notamment la 7e édition de la semaine de la sécurité routière qui a pris fin hier 10 août. La cérémonie de clôture, le conseiller technique du ministre des Transports en charge des questions de sécurité routière, Étienne Kouakou, a invité toute la population à faire des efforts afin de sauver des vies. Et dans l'actualité sur le continent, les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO vont se réunir demain samedi 12 août à Accra sur la situation du Niger. Élection des sénateurs annoncée pour se tenir le 16 septembre prochain, soit 2 semaines après celle des conseillers municipaux et régionaux qui constituent l'électorat des sénatoriales, serait en parfait télescopage calendaire, selon Geoffroy Julien Kouaou, juriste et analyste politique qui cite le code électoral et il s'en explique.
Selon le code électoral ivoirien, les 66 sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, c'est-à-dire élus par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Et la date de l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux est fixée au 2 septembre 2023. Et l'élection des sénateurs est fixée, quant à elle, au 16 septembre 2023. Il y a donc un problème de timing, en ce sens que, après l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux, il peut arriver des cas de contestation des résultats devant le juge compétent, en l'occurrence ici, le Conseil d'État. Selon le code électoral, le Conseil d'État, dans une telle hypothèse, en cas de contestation, dispose d'un mois pour vider sa saisine. Or, en fixant la date des sénatoriales le 16 septembre, il est fort possible que tout l'électorat de l'élection des sénateurs ne soit pas réuni, ce qui pose un problème de timing.
Vous venez d'entendre le juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouaou. Et puis parlons des coups d'État enregistrés ces derniers temps en Afrique. Ils sont de trop, singulièrement dans les anciennes colonies françaises, notamment au Mali, Burkina Faso, Guinée et aujourd'hui Niger. Et presque tous ces coups de force des militaires contre les présidents élus ont été applaudis par la population et par la classe politique de ces pays. Alors comment expliquer une telle situation? Pour beaucoup d'observateurs avertis de la scène africaine, les régimes en place dans les pays africains gagneraient à passer très sincèrement à de vrais régimes démocratiques. Là-dessus, écoutons le professeur Jean-Marie Kouakou, professeur des universités, professeur de littérature à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody.
Oui, mais ça s'observe précisément dans les pays africains francophones. On a beau parler de la France, il faut peut-être d'abord parler de nous-mêmes. Parce que c'est quand même étonnant, Mohamed Bazoum, comme Ibeka au Mali, comme Kabore au Burkina Faso, tous ces gens avaient été élus démocratiquement. Normalement, le choix démocratique est un choix libre. Ce sont les populations qui ont, en principe, donné leur adhésion, leur choix à cette personne élue. Alors comment ça se fait que 2 ou 3 années après, ces mêmes populations crient de joie à un coup d'État et il n'y a même pas de contrepoids qui dit non, on refuse le coup d'État. Même les oppositions se taisent, elles adhèrent en général à ces coups d'État. Il y a quand même un problème quelque part. Ça veut dire que les systèmes démocratiques en question étaient de papier, étaient du faux, quoi. C'était presque du toc. Parce que ce n'est pas possible que celui qui a élu dise en même temps « je se déchois par les armes ». Ce n'est pas quelque chose qui ne va pas. Il y a problème. En principe, comment est-ce qu'on peut applaudir un coup d'État militaire? Ça ne se fait pas. On n'applaudit pas un coup d'État militaire. S'il y a un coup d'État militaire, tout le monde devrait avoir peur et dire « maintenant, il y a problème ». Or, tout le monde est content. Ça veut dire que personne, en réalité, n'a vraiment prêté sa voix à l'élection en question. Donc du coup, ça veut dire que les régimes en place dans les États africains francophones gagneraient à se poser de vraies questions et gagneraient sincèrement, mais très sincèrement, à passer à des régimes démocratiques. À ne pas chercher à se maintenir au pouvoir vaille que vaille, coûte que coûte.
À l'instant, le professeur Jean-Marie Kouakou, professeur de littérature à l'université Félix Fouette-Boigny d'Abidjan-Cocody. Et puis parlons à présent de la semaine, de la journée africaine de l'état civil. Et à l'instar des autres pays africains, la Côte d'Ivoire a célébré hier jeudi la 6e édition de la journée africaine de l'état civil. C'était à Grand Bassam et à l'initiative de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI. Les efforts de modernisation de l'état civil en Côte d'Ivoire et en Afrique ont été largement évoqués. Le compte-rendu avec Junior Cartin.
Dans ses propos introductifs, le directeur général de l'ONESI, Ago Christian Kodia, a indiqué que cette journée détermine le caractère transversal de l'état civil en Afrique.
En ce sens qu'il occupe une place dans la planification des politiques, particulièrement en matière de santé, d'éducation, de protection sociale, l'état civil intervient également dans la gestion des problématiques de la migration, de la sécurité notamment, la lutte contre les trafics illicites et le terrorisme.
Sur cette lancée, Ago Christian Kodia a reconnu que le projet de modernisation de l'état civil ivoirien est très ambitieux.
À terme, toutes les couches sociales, sans distinction, bénéficieront de services de qualité en appui à la digitalisation et la dématérialisation des services de l'administration.
Les efforts en cours doivent être poursuivis. C'est le plaidoyer que fait Anne-Sophie Lédin au nom du représentant pays de l'UNICEF.
L'annuaire statistique d'état civil 2022 a relevé un taux d'enregistrement des naissances de 56%. Pour le pays qui ambitionne un taux d'au moins 75% à l'horizon 2030, il est indispensable de poursuivre les efforts en cours pour atteindre cet objectif.
Ce plaidoyer a eu une oreille attentive à la personne du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé.
C'est un taux que nous devons améliorer. Il est aussi important que nous puissions mettre en place un dispositif de numérisation qui nous permet d'être à l'abri des intempéries, de tout ce qui est soubresaut et qui font disparaître parfois les traces de l'état civil.
Trois scanners grand modèle acquis par l'ONESI avec l'appui du ministre qui permettent de scanner les registres en vue de les diriger vers un système central ont été présentés, de même que trois nouveaux véhicules.
Transport en Côte d'Ivoire, la 7e édition de la semaine de la sécurité routière qui s'est déroulée du 3 au 10 août a mis l'accent sur les engins motorisés de 2 et 3 roues. Plus de 2000 casques ont été distribués sur toute l'étendue du territoire national afin de sauver des vies. Et donc à la cérémonie de clôture de cette phase, le conseiller technique du ministre des Transports en charge des questions de sécurité routière a invité toute la population à faire des efforts dans ce sens.
Cette 7e édition a été particulièrement marquée par la présence et la participation de l'OMS qui, à travers l'initiative, un programme pour qu'il y ait des casques sûrs et abordables pour tous. Donc, à travers cette campagne, a eu à distribuer sur l'ensemble du territoire 2900 casques. C'est donc à juste titre que vous allez constater que les activités menées au cours de cette 7e édition ont mis un accent sur la problématique des engins à 2 ou 3 roues. Notamment le port obligatoire du casque. Évidemment, les aspects que nous venons de citer sont encadrés par une réglementation. Cette réglementation, au-delà du casque, impose que le motocycliste lui-même soit un connaisseur du code de la route. Ça veut donc dire qu'il est détenteur d'un permis de la catégorie. Nous exhortons tous ceux qui utilisent les engins à deux roues à se conformer à cette réglementation en acquérant un permis de conduire. Évidemment, la moto qui est sur la voie publique doit être immatriculée. Les actions vont continuer avec les différents acteurs, notamment les assembleurs, pour que lorsque on vend une moto qui ait un kit de sécurité qui l'accompagne, notamment deux casques, un pour le conducteur et un éventuellement pour le passager, un gilet fluorescent pour que le conducteur soit bien vu par les autres usagers.
Vous venez d'écouter le conseiller technique du ministre des Transports en charge des questions de sécurité routière, Étienne Kouakou. Et à cette cérémonie, il a insisté sur l'entretien des véhicules, également dénoncé l'alcool et la fatigue au volant, de même que l'excès de vitesse qui s'est déporté sur les accès interurbains. Prenons la direction de San Pedro, où une présentation du plan d'urbanisme de détail a fait l'objet d'une rencontre entre rencontre les acteurs du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de la Construction et la Population. Cette présentation a eu lieu hier jeudi et vise à donner plus de détails sur le développement de la ville avec un encadrement du ministère de l'Urbanisme pour éviter le désordre. Des détails dans cette correspondance de Kofi Benson, notre correspondant dans le Bassa-Sandra.
Le gouvernement ivoirien, pour mieux encadrer le développement des villes, s'est doté de plans d'urbanisme. Des détails selon Hubert Yumafo, directeur de l'urbanisme au ministère de l'urbanisme, du logement et de la construction.
Le gouvernement voudrait faire de la Côte d'Ivoire un pays développé. Dans cette dynamique, l'État de Côte d'Ivoire est vraiment dans une dynamique d'encadrer l'urbanisation de nos différents territoires et éviter l'anarchie dans les opérations d'aménagement et de lotissement qui se font ça et là.
Un plan d'urbanisme, des détails, présenté par Ouattara Ismaël, directeur du cabinet d'études d'urbanisme et d'environnement EUE.
L'objectif de ce plan, c'est de donner plus de détails. C'est-à-dire, le plan d'urbanisme directeur va dire ici, c'est la zone d'extension de la ville. On va prévoir de l'habitat dans cette grande zone, mais le plan d'urbanisme détail vient rentrer dans les zones et propose un détail. Il va découper plus en blocs pour que tout le monde puisse comprendre. On a une grande zone de 5 hectares. Le plan d'urbanisme détail va venir les diviser en petites zones de 1 hectare, de 5000 m² en mettant tous les équipements structurants pour que l'aménagement de la zone puisse suivre un peu une certaine organisation harmonieuse qui prévoit le plan d'urbanisme des détails.
Pour Émile Daniel, chef du village de Maillé, quelques préoccupations sont à prendre en compte avant la validation définitive de ce plan.
Effectivement, les gens ont fait beaucoup de parcs urbains dans nos domaines. Nous n'avons pas été d'accord. Nous avons demandé que cela s'annule et qu'on nous permette de souffler des lotissements qui ont été omis dans beaucoup d'endroits, de restituer tout cela afin que chacun soit un peu au beau fixe. Sinon, pour l'ensemble, c'est bon.
Une consultation publique est prévue les semaines à venir. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Notons que cette activité était à l'initiative du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Démarrage effectif du campus citoyen 2023 à l'initiative de l'Office du service civique national. 500 jeunes viennent d'intégrer l'Académie régionale des sciences et de la technique de la mer. Un mois durant, ces jeunes seront occupés à des activités tournant autour de la discipline, le civisme et la citoyenneté, entre autres. Mata Touré nous en dit un peu plus dans ce compte-rendu.
Moi, je me nomme Kwadio Adjoa-Ose Gladys. Moi, je viens de Dimboko.
Je me nomme Kwame Adjoa Claudia Nathanael. Je viens de Béomi.
Ils sont 500 jeunes, entre 18 et 35 ans scolarisés ou hors du système scolaire, qui savent lire et écrire et provenant de l'ensemble des départements de la Côte d'Ivoire. Sélectionnés par le biais des directions régionales et départementales de la jeunesse et des organisations de jeunesse, ils sont formés au civisme, à l'encadrement citoyen avec l'encadrement à la discipline. Pendant les grandes vacances scolaires, ces jeunes sont accueillis à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Mamadou Touré est directeur de l'Office national du service civique.
Vous êtes ici comme une petite Côte d'Ivoire reconstituée. Vous venez de partout. Vous venez du nord, vous venez du sud, vous venez de l'est, vous venez du centre. Vous venez de partout. C'est cette Côte d'Ivoire unique que nous avons recréée ici aujourd'hui à travers vous.
On a le sentiment que les jeunes ne s'informent pas. Ça fait 4 ans qu'on parle de l'Office du service civique national. Depuis plus de 5 ans, on parle de l'agence emploi jeune. Depuis plus de 5 ans, on parle du bureau de coordination des projets emploi. Malheureusement, les jeunes ne connaissent pas ces dispositifs.
Ces jeunes sont accueillis à l'RTCM du 5 au 25 août prochain.
Et puis, dans le district autonome de Yamoussoukro, une centaine de représentants de radios de proximité participent depuis 2 jours, sinon ont participé depuis 2 jours hier et aujourd'hui, à un séminaire qu'organise la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, le rôle des radios de proximité dans la réussite des élections des conseillers régionaux et municipaux du 2 septembre prochain. C'est autour de ce thème que se déroulait ce séminaire. En ligne de Yamoussoukro donc, Émile Yao.
Le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Maître Roger Bourgoin, a dans son mot d'ouverture situé les enjeux de ce séminaire.
Il s'agit de sensibiliser les radios au respect des dispositions de leur cahier des charges et des règles d'éthique et de déontologie de la profession de journaliste, informer les radios sur les décisions prises par la HACA pour réguler la période électorale et les dispositions spécifiques relatives à cette période électorale.
Le préfet de la région du Bélier et du département de Yamoussoukro, Koulibaly Gondo, a quant à lui appelé à la responsabilité des radios de proximité.
Mesdames, Messieurs les responsables des radios de proximité, sans vous menacer, je voudrais vous mettre devant votre responsabilité parce que nous souhaitons tous avoir des élections apaisées.
Trois grandes communications, notamment le processus électoral, les règles applicables aux radios privées non commerciales en période électorale et enfin, rôle des radios de proximité et traitement de l'information en période électorale ont meublé la première journée de ce séminaire. Et relativement à la dernière communication, l'expert consultant radio Sangaré Aboulaye, directeur général de Radio de la Paix, recommande.
Cette période requiert des médias en général et des médias de proximité en particulier un strict respect des règles professionnelles, de l'éthique et de la déontologie du journalisme, mais également une application stricte des dispositions légales et réglementaires en matière de traitement de l'information.
Ce séminaire prend fin ce vendredi 11 août 2023 par une remise de diplôme aux participants. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Dans l'actualité sous-régionale, une réunion des chefs d'état-major des armées de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est programmée pour demain, samedi 12 août, à Accra, au Ghana, après l'activation et le déploiement de la force en attente qui doit restaurer l'ordre constitutionnel au Niger, apprend Radio France Internationale de bonne source. Cette réunion fait suite donc aux recommandations des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO rassemblés en sommet extraordinaire à Abuja ce 11 août. Et puis au Tchad, succès, Masra annonce son retour dans le pays. Le chef de l'opposition tchadienne a posté une allocution filmée sur son compte Facebook à l'occasion de la fête nationale du pays. Ce 11 août 2023, le chef du parti Les Transformateurs, dans sa vidéo, dit vouloir privilégier le dialogue et la réconciliation et prévoit également de rentrer au Tchad sans préciser toutefois la date. Rappelons que Succès Masra vit en exil à l'étranger depuis la répression meurtrière des manifestations du 20 octobre 2022 au Tchad. Cette information clôt notre édition dont voici le rappel de l'essentiel. Tenir les sénatoriales à deux semaines des élections locales est contraire au texte du code électoral ivoirien en raison du timing jugé trop juste pour des éventuelles réclamations et règlements de contentieux, selon le politologue et juriste Geoffroy Julien Kouaou. Et puis sécurité routière, la 7e édition de la semaine de la sécurité routière a pris fin hier 10 août à la cérémonie de clôture. Le conseiller technique du ministre des Transports en charge des questions de sécurité routière, Étienne Kouakou, a invité toute la population à faire des efforts afin de sauver des vies. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis pour cette dernière édition de ce vendredi 11 août 2023 sur Radio de la Paix. L'actualité reprend ses droits dès demain 7h, mais en attendant, retrouvez tout de suite Sonia Nzian pour votre magazine humanitaire.